Qu'est-ce qu'on découvre quand on est écrivain voyageur et grand reporter en parcourant l'Ukraine pendant la guerre ? En quoi la défense ukrainienne est-elle différente par rapport à d'autres conflits dans le monde entier ? Peut-on vraiment parler de la naissance de la nation européenne ? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Olivier Weber, écrivain, grand reporter et voyageur, auteur de plusieurs livres, dont un ouvrage sur l'Ukraine, Naissance d'une nation européenne. Olivier Weber vient de rentrer d'un voyage en Ukraine, il prépare un livre sur l'esprit de la résistance, avec un chapitre sur les Ukrainiens. Bonjour Olivier, tout d'abord je te remercie d'avoir accepté l'invitation à ce podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît comme grand reporter, comme écrivain qui a écrit d'ailleurs déjà un livre, deux livres on va dire, sur l'Ukraine. Le premier livre qui date d'il y a 30 ans, mais le livre récent Naissance d'une nation européenne qui est paru l'année précédente. Nous nous sommes retrouvés pour la première fois dans le train vers Kharkiv, n'est-ce pas ? Donc, Kharkiv, on a fait ce voyage ensemble. Et donc, dans la soirée, tu nous récitais le très beau poème de Paul Éluard, Liberté. Alors, ma première question à toi serait voilà, sur la ville de Kharkiv et sur voilà, tes impressions de ce voyage où tu as pu voir notamment cette très belle ville, ancienne capitale, qui a aussi une histoire littéraire importante.
Oui, d'abord, j'étais fasciné par ces rencontres lors de ce voyage, on va dire, littéraire en Ukraine. Et je crois que c'est important que de véhiculer les mots, que de porter les paroles, que de les entendre aussi. Et je vois qu'il y a toujours cette appétence, ce désir de la part des Ukrainiens d'être entendus, de porter une parole. Ça fait partie de la culture ukrainienne. Et j'ai été aussi, pas surpris, parce que c'est pas une surprise, mais je suis heureux de voir que cet esprit de résistance, ça sera d'ailleurs le titre de mon prochain livre, De l'esprit de résistance. Il y aura une partie sur l'Ukraine avec les peuples menacés par ce que j'ai appelé dans mes livres les néo-empires, des anciens empires qui redeviennent des empires, donc impérialistes par définition, dont la Russie, bien sûr, de Poutine. Et j'ai été, conquis par ce désir de liberté de la part des Ukrainiens qui ont compris dès l'an dernier, dès le début de l'invasion totale, que s'ils ne résistaient pas, ça serait non seulement le pays qui serait laminé, mais toute l'histoire, toute l'existence du peuple, toute la culture, toute la langue aussi ukrainienne. Et donc ce partage qu'on a eu ensemble pendant quelques jours, et moi j'ai continué ensuite dans le sud à Odessa, ce partage des mots, ce partage des livres, ce partage de l'espérance, effectivement est très important et nous y avons répondu, nous les écrivains français, mais aussi vous les Ukrainiens. Et voilà, je confirme que ce qui est culturel doit être maintenu, doit être véhiculé, doit être sublimé, même et surtout en temps de guerre. Et sur Kharkiv, pour revenir à ta question, j'y ai passé du temps l'an dernier, lors de ce séjour d'un mois en Ukraine au début de la guerre, en mars et en avril. Et à l'époque, la ville était en grande partie encerclée par les forces russes. J'ai vu les destructions à l'époque, déjà l'an dernier. Je les ai revues avec vous tous. Et il y a évidemment toujours cette résistance militaire, mais aussi civile, de la part du peuple ukrainien. Et comme tu le disais, c'est une capitale, une ancienne capitale, une ville importante aussi, pour les mots, j'allais dire capitale de la douleur, parce que c'est le titre justement d'un recueil de poèmes de ce poète surréaliste Paul Éluard, dont j'ai lu le poème qui s'appelle « Liberté, j'écris ton nom ». Et je trouvais que c'était le moment idoine et le lieu adéquat pour évoquer ce magnifique poème qui a été écrit pendant la résistance française, lors de l'occupation par les troupes nazies en France.
Oui, c'est un très bon poème qui était, voilà, qui était récité à Kharkiv, donc ça rimait très bien ensemble. Pour revenir à l'Ukraine d'une manière plus globale, tu connaissais l'Ukraine il y a 30 ans, tu as fait des voyages pas seulement en Ukraine, d'ailleurs, mais aussi en Russie, dans d'autres ex-républiques à cette époque-là de la région. Et donc, tu en as sorti un livre aussi. Et avec cette distance de 30 ans, quand même, quelle différence avait-tu remarqué pendant ce premier voyage? Bien sûr, il y avait la guerre, mais quelle différence dans la mentalité, dans les gens, dans les conversations que tu avais rencontrées cette fois-ci en mars-avril 2022, au moment d'écrire ton deuxième livre sur l'Ukraine, donc un livre exclusif sur l'Ukraine? Comment l'OPI a-t-elle changé en 30 ans entre ces deux voyages?
Oui, c'est une très bonne question. J'étais très jeune à l'époque. J'ai écrit un livre qui est une somme de chapitres, on va dire, sur l'ex-URSS. Donc, il y a la Lituanie, il y a des villes de Russie comme Moscou, Saint-Pétersbourg, Voronej et autres. Il y a le Caucase, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, il y a l'Ukraine. J'ai eu la chance à l'époque de pouvoir me rendre en Crimée. Et bien sûr, on était au début de l'indépendance, c'est le début des années 1990. Et à chaque fois, il y avait un portrait ou plusieurs portraits des habitants de ces républiques devenues indépendantes ou de ces villes, et en même temps une thématique. Et sur l'Ukraine, pour répondre à ta question sur la différence, c'est que je trouvais qu'il y avait une sorte de, et c'est tout à fait normal, une sorte de frilosité à l'époque, dans les années 90, au début de l'indépendance, par rapport à ce qui était anciennement la mère patrie, la Russie, avec des institutions quand même très liées au niveau du KGB devenu FSB, du côté russe, au niveau militaire aussi, et peut-être une peur justement d'affirmer un peu trop l'indépendance. On l'a vu aussi, l'Ukraine d'ailleurs a donné ses armes nucléaires, et j'ai trouvé que par rapport aux années 90, ce séjour d'un mois l'an dernier m'a montré qu'il y avait vraiment une envie totale de couper les liens, bien sûr à cause de la guerre avec la Russie, mais aussi mentalement, mais aussi culturellement, mais aussi au niveau générationnel. Je m'explique. Là, j'ai vu beaucoup de jeunes, entre autres, mais pas que, l'an dernier, à Kharkiv, à Odessa, à Kiev, à Poltava, sur les lignes de front, à Nikopol, à Zaporijja. Et ce sont des jeunes qui n'avaient même pas l'âge de manifester à Maïdan en 2013-2014, ou à peine, ils étaient adolescents. Et là, ce sont les plus virulents, les plus combattants, les plus combatifs, les plus résistants, parce qu'ils ont compris effectivement qu'il fallait empêcher la Russie de Poutine de réécrire l'histoire, de construire un narratif contre l'Ukraine. Je prends un seul exemple, Tétania, si tu me permets, je finirai là-dessus, c'est par exemple l'Holodomor. L'Holodomor, on en parlait peu dans les années 90, peut-être parce qu'on avait peur aussi, justement, de cette tutelle invisible, intangible et tangible en même temps, de la part des institutions russes sur l'Ukraine, et je pèse mes mots. Et là, très souvent les jeunes, et les jeunes historiens, mais même des jeunes de toute composantes de toute origine, de toute formation confondue, disent il faut affirmer l'histoire, il faut empêcher la Russie de la réécrire pour nous, il faut continuer le narratif ukrainien. Et donc le Holodomor, on doit le revendiquer, on doit l'expliquer, on doit creuser ce sillon. Et donc voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est la grande différence que j'ai vue. Et puis deuxièmement, par rapport à d'autres conflits que j'ai pu couvrir, pour mes livres, pour mes romans, mais aussi pour mes reportages, j'ai trouvé que ça fait à peu près une vingtaine de conflits ou de mouvements armés de par le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Afghanistan, Irak, Syrie, etc. Je ne veux faire aucun comparatif, mais cette guerre est très singulière au niveau de la résistance du peuple ukrainien, parce que, d'une part, sur le front, j'ai trouvé les Ukrainiens très combatifs, malgré, évidemment, le bulldozer que représente la Russie, et j'ai trouvé que dans les pays occidentaux, on l'a souvent sous-estimé depuis le début de la guerre, ce côté évidemment très puissant de la Russie, le pays de la profondeur, le pays des ressources minérales, le pays qui est le plus grand pays du monde, etc. Et puis le deuxième point, au-delà de la combativité qui m'a ébloui littéralement, et pardon, là aussi je pèse mes mots, c'est cette symbiose, cette osmose, cette relation, cette dialectique, j'allais dire, au bon sens du terme, entre là où les lignes de front et puis l'arrière. J'ai pratiquement jamais vu quelqu'un qui ne soutenait pas la guerre par une action civile, par une action militaire, par une action simplement de logistique, de nourriture, une action financière aussi. Et ça, c'est assez rare quand il y a des guerres que de voir l'arrière qui est aussi, comment dirais-je, en soutien, on va dire, des lignes combattantes. Voilà, ce sont les deux grandes leçons de ces récents voyages en Ukraine.
Oui, tout à fait. Donc, Holodomor, je tiens à rappeler aussi à nos auditeurs que Holodomor n'était pas vraiment connu en Ukraine, même dans les années 90, ça c'est absolument vrai. Je me rappelle que c'était sous la présidence de Viktor Yushchenko qu'on avait commencé à parler au niveau politique, historique ensuite, de ce phénomène très tragique, de cet épisode extrêmement tragique de l'Ukraine. Et je me rappelle d'ailleurs les blagues de Volodymyr Zelensky, qui était comédien à cette époque-là, qui n'était pas du tout président, qui appelait Yushchenko Monsieur Holodomor pour le ridiculiser. Donc on voit l'évolution qu'a fait tout un pays, toute la classe politique aussi, et toute la jeunesse aussi. Cette année, nous avons commémoré 90 ans depuis Holodomor. On a visité d'ailleurs le monument, voilà, le monument à côté de la musée. Donc il y avait du monde, malgré le froid qui est déjà actif. Il y avait beaucoup de bougies. Donc je peux constater, même au niveau quotidien, que chaque année, on voit de plus en plus de bougies dans les fenêtres. Il y a une tradition de mettre des bougies dans les fenêtres chaque quatrième samedi de novembre pour marquer qu'on se souvient. C'est une invitation pour des morts, pour leurs âmes, peut-être, de venir manger avec des familles. Donc, ça, voilà, c'est juste un geste de commémoration. Et chaque année, je me rappelle, dans les débuts, il y en avait très peu. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est-à-dire que cette cruauté, cette agression russe qui est imposée à l'Ukraine, il fait aussi cet effet que les gens se souviennent davantage. Ils creusent leur histoire familiale. Ils s'intéressent à l'histoire parce qu'ils comprennent qu'il y a un lien entre ce mal impuni dans le passé et ce qui se passe aujourd'hui. Ça vient progressivement. Et donc, je te demanderai, comme je fais souvent dans ces podcasts, de revenir dans ta mémoire, dans cette petite matinée de 24 février 2022. C'était sans doute le moment du choc pour toi aussi. Et c'était, j'imagine, aux alentours de cette date que la décision de voyager, de prendre la route, était prise par toi.
Oui, absolument. Le 24 février, alors... Penser qu'il allait y avoir la guerre sans y penser, sans y croire totalement, parce que comme beaucoup, j'espérais que l'arrivée massive des troupes russes au nord et à l'est de l'Ukraine serait un coup de bluff de la part de Poutine. Certains services de renseignement occidentaux, surtout américains, britanniques, ont averti que ce n'était pas un coup de bluff avant le 24 février. Mais j'osais espérer quand même qu'il allait y avoir un modus vivendi. Évidemment, la décision a été prise. Je devais partir à la frontière afghane, donc avec l'Afghanistan. À cette époque, j'y suis allé avec des résistants afghans, et je suis rentré après pour repartir assez vite, donc en Ukraine. Mais oui, je voulais témoigner, je voulais être là. Il se trouve que je suis parti pour écrire un livre. Et en fait, j'ai aussi témoigné dans la presse parce que j'ai cette double fonction d'être écrivain, mais aussi d'être grand reporter parce que j'ai envie de témoigner là pour notre voyage récent à Kharkiv et ensuite pour ma continuation à Odessa. J'ai écrit des articles dans la presse française aussi ou francophone qui sont en train de paraître et le témoignage est important. Mais pour revenir à ta question, oui, bien sûr, ça m'a marqué. Pour moi, il y avait deux choses. D'abord, c'était la démonstration de ce que j'appelle cette résurgence, cette renaissance des anciens empires, donc les néo-empires. Il y en a quatre dans le monde. Il y a l'Iran, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la Turquie, qui n'étaient plus expansionnistes, qui n'avaient plus de désir impérialiste, et là, qui sont dans l'expansionnisme à la fois géographique, mais même au niveau mental, au niveau culturel, avec une soumission des peuples, soit à l'intérieur de ces pays, soit aux marges, soit aux confins. Et c'est étrange d'ailleurs, c'est l'an dernier Poutine lui-même qui a parlé d'empire. Il a dit un empire par définition n'a pas de frontières. Pourquoi parle-t-il d'empire? Pourquoi dit-il qu'un empire n'a pas de frontières? Donc c'est ce désir aussi, conscient et inconscient, affirmé, de conquérir, de conquête. Et pour moi, le deuxième point, et là les Ukrainiens ont très très bien réagi, pour moi le deuxième point c'est que si la guerre commençait ou continue, on va dire, parce qu'évidemment c'est une invasion à grande échelle, on va dire, elle avait déjà commencé en 2014, mais si cette guerre, cette offensive brutale et massive continuait, donc sur Kiev en particulier, c'était la démonstration que Poutine voulait aller plus loin et qu'il fallait défendre les valeurs européennes. Et ce qui m'a surpris aussi, et là c'était une découverte lors du voyage de l'an dernier, c'est comment les Ukrainiens, jeunes et moins jeunes, et peut-être surtout les plus jeunes, défendent nos valeurs. Et ce n'est pas une question d'opposition de pays riches à d'autres, au reste du monde, comme on dit, pas du tout. Actuellement, ce qui se passe, c'est une fracture entre pays démocratiques. Il peut s'agir du Pérou, il peut s'agir de la France, il peut s'agir de pays africains, il peut s'agir de pays asiatiques, contre les pays totalitaires. Et on est dans ce que Hannah Arendt appelait la banalisation du mal. Et je pense que de plus en plus, on a accepté ce fait impérialiste des néo-empires. Regardez les routes de la soie du programme de Xi Jinping, le président chinois depuis 2013, c'est 114 pays, c'est 1100 milliards de dollars. Et je pense que, je le dis avec beaucoup d'honnêteté, ce n'est pas mon opinion, mais je pense que les capitales occidentales auraient réagi ainsi si le 24 février, Poutine avait attaqué non pas Kiev par le nord, mais avait élargi sa conquête du Donbass à 10, 20, 30, peut-être jusqu'à 40 km à l'ouest de ce qui était donc la ligne de front, la ligne de cessez-le-feu, c'est selon d'avant le 24 février 2022. Je pense honnêtement que peu de capitales occidentales auraient réagi. Là, évidemment, la grosse erreur de Poutine dans ce jeu d'échecs multidimensionnel qui est trop grand pour lui, c'était d'avoir attaqué Kiev. Cela dit, le temps passant, le temps long peut jouer, doit jouer pour les empires, pour les néo-empires et surtout pour un pays comme la Russie. C'est le grand danger pour l'Ukraine. Mais pour revenir à ta question, oui, le 24 février, c'était un choc, mais comme c'était un choc attendu, auquel je me refusais de croire, mais évidemment, cela démontrait tout cet appétit impérialiste de la part de la Russie poutinienne.
Oui, toute cette folie qui était un jeu. Je serais d'accord avec toi qu'il y ait que ce combat qu'on est en train de vivre de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, c'est un combat entre deux modes de vivre, d'être, de penser, de penser l'espace aussi. C'est que nous avons d'un côté le monde démocratique et ce monde autoritaire, voire totalitaire, impérial. C'est un monde du passé en quelque sorte, mais malheureusement, on dirait que pour l'instant, il n'est pas du tout évident que les démocraties arrivent à vaincre l'ennemi. C'est-à-dire qu'on voit les hésitations, on voit des réticences, on voit une certaine lenteur aussi de la réaction. On voit surtout la lenteur de la prise de conscience. Il me paraît que plusieurs pays ont mis du temps à comprendre la vraie échelle de ce danger que représente la Russie. Nous avons souvent du mal à expliquer aussi que la Russie ne va pas s'arrêter. Donc, s'il y a on parle de temps en temps, on commence à parler, notamment dans la presse, dans les tables rondes, dans les milieux diplomatiques, des négociations. Ce sont des questions souvent posées, aussi à toi, parce que tu es souvent aussi présent dans la presse, notamment française. On a du mal à expliquer que pourquoi les négociations avec l'agresseur, ça ne marchera pas. Donc, est-ce que, à ton avis, ce bloc démocratique, si on peut appeler comme ça, bien sûr, elle est très hétérogène, est-ce que nous avons aujourd'hui des ressources et une sûreté suffisante pour mener ce combat qui annonce être très long, en fait ?
Oui, absolument. Mais je crois d'abord, c'est que les pays démocratiques, les pays occidentaux ont été surpris de cette éruption de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte d'angélisme de la part des pays occidentaux pendant des années, surtout après la guerre froide, et même pendant la guerre froide, mais surtout après la guerre froide, et surtout après l'effondrement de l'URSS en 1991. Là, les pays occidentaux ont cru à la paix, il y a eu des mouvements pacifistes également, les jeunes générations ne voulaient pas croire à la guerre, etc., etc., plus jamais ça. L'Europe, finalement, et l'Union européenne se sont construites sur l'après-guerre, justement. Donc, il y a une sorte de cauchemar qu'on a voulu repousser. Regardez ce qui s'est passé dans les Balkans, justement au moment de l'effondrement de l'URSS. Ce qui s'est passé avec cette guerre en ex-Yougoslavie, ce sont les Américains, finalement. Et je ne veux pas du tout faire prôner une approche pro-américaine, mais ce sont quand même les Américains qui ont réglé la guerre dans les Balkans avec les accords de Dayton et après quelques bombardements sur la capitale de la Serbie, qui est Belgrade. Après, la deuxième chose, c'est qu'on est dans un partage d'aires d'influence, surtout dans un échange ou une double approche américaine et russe. Ce sont les deux anciens blocs de l'OTAN et du pacte de Varsovie. L'Europe n'a pas de défense. L'Europe s'est construite au niveau de l'Union européenne sur un consensus avec le pays des 27, ce qui est compliqué à gérer. Et la seule défense qui existe, le seul vrai parapluie militaire, ce sont les États-Unis, donc l'OTAN, en fait, derrière. Et donc, il y a une difficulté, évidemment, à se ranger sur une position commune par rapport à l'agresseur. Ça a été le cas, là, pour, évidemment, pour la Russie, dès le 24 février, ça a surpris tout le monde. Regardez l'attitude de l'Allemagne qui s'est réveillée, qui a donné beaucoup d'armement à l'Ukraine, qui a décidé aussi de se doter de fonds militaires beaucoup plus importants qu'auparavant. Après, vous avez, au-delà de l'espace, donc cet espace consensuel qui est l'Europe, qui est considéré par la Russie, d'ailleurs, comme étant un ventre mou, en quelque sorte, un système très flou, alors que la Russie considère les États-Unis comme étant une vraie nation forte, et bien sûr la Chine également. Il y a, au-delà de l'espace, un deuxième facteur qui est important, c'est le temps. Le temps démocratique, tu sais, il est très court. Il n'est même pas le temps d'un mandat politique de 4 ans ou de 5 ans, présidentiel ou de type parlementaire. Il est plutôt de 2 ans, parce qu'au bout de 2 ans, un pays est déjà en campagne électorale. Et la démocratie est sûrement, comme disait Churchill, le pire des systèmes, mais il n'y en a pas de meilleur. Et la démocratie a du mal à penser le temps long. Or, les dictatures et les néo-empires pensent sur un temps très long, évidemment parce que les dirigeants sont là pour longtemps, et même quelquefois, il y a une sorte de survivance par rapport à la pérennité d'un dirigeant. Regardez la Chine, regarde l'Iran en particulier, on est sur un mode de pensée politique sur 2-3 générations. Et là, effectivement, le temps long joue contre l'Ukraine, et je le dis très franchement, je l'ai dit depuis le début de la guerre, pour essayer d'alerter aussi modestement certains dirigeants et les opinions publiques, et le temps politique, le temps long joue pour la Russie. Alors après, une fois qu'on a dit ça, je crois que c'est très très important de continuer à aider l'Ukraine, parce qu'il en va des valeurs démocratiques, il en va aussi de cette capacité à contrer l'expansionnisme, non seulement spatial, non seulement militaire, mais aussi mental, mais aussi politique, de la part d'une dictature. Pour moi, ce qui se passe en Russie, évidemment, est une sorte de mode barbare de l'expression politique, même si, évidemment, Poutine est élu, mais tout cela des élections sur fond de propagande, avec des médias totalement asservis, avec la peur. Tu sais, moi, j'ai toujours vu ça dans la vingtaine de conflits que j'ai pu couvrir, mais aussi sur d'autres pays que j'ai visités, même pour des romans, c'est que tu as à côté de la panoplie militaire, à côté de l'armée, à côté des systèmes de répression et de sécurité, il y a également une arme terrible qui s'appelle la peur, la terreur. Et évidemment, quand la peur gagne les esprits, après, on banalise cette peur, ça fait partie des acquis, ça fait partie d'un mode de vie. Et la Russie, justement, a totalement propager cette peur, et là je crois aussi qu'il est temps de le dire, et ce sursaut, c'est plus qu'un sursaut, cette combativité des Ukrainiens jeunes et moins jeunes, pour moi c'est une leçon. Je le démarre dans le livre, parce que le livre s'appelle « Naissance d'une nation européenne », et le sous-titre c'est « Réflexions sur la question ukrainienne », mais en fait je ne parle pas de l'Union européenne, je parle de la nation européenne, de ce qu'elle représente comme ensemble de valeurs, et évidemment l'Ukraine en fait partie pour moi, les valeurs de liberté religieuse, de liberté politique, de liberté de la presse, de liberté d'expression. Moi, ça m'a surpris de voir que l'an dernier, il y a eu des enquêtes dans la presse, le Kyiv Post, mais aussi d'autres journaux ukrainiens, sur la corruption. Nous sommes en temps de guerre. Il y a une loi martiale qui est décrétée en Ukraine, contrairement à la Russie d'ailleurs. Et en loi martiale, on peut tout se permettre, au niveau du régime, y compris de censurer la presse. Là, on a eu une presse très courageuse qui a affirmé, qui a enquêté sur des faits de corruption, et je trouve ça miraculeux, et c'est une leçon. Et je commence le livre comme cela, d'ailleurs à Nikopol, en face de la centrale de Zaporijja, sur le Dniepr, avec le préfet militaire, on va dire, de Nikopol. On était vraiment en face des Russes, là, en mars-avril, et en fait, c'est pas du tout un préfet militaire au départ, c'est un chirurgien de l'hôpital de Nikopol, à qui on a mis une casquette et des galons de militaire pour défendre la ville. Et je dis, mais avec Evgeny Yevtuchenko, le nom de ce préfet militaire, chirurgien, hospitalier, j'ai dit que j'ai pris une leçon d'européanité, c'est-à-dire une leçon de valeurs européennes. Et je suis heureux, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je suis, acquis au fait de pouvoir transmettre ces leçons d'européanité aux autres peuples en Europe, en Union européenne, où parler de l'Europe très souvent est considéré comme étant ringard.
Oui, Et tu n'es pas le seul à apprendre cette leçon, C'est vrai que donc certaines évidences ont été voilà beaucoup plus claires aujourd'hui, sont devenues plus claires aujourd'hui, notamment voilà l'Europe qui exportait pour des raisons historiques bien sûr, exportait la sécurité depuis les États-Unis depuis des décennies. Et donc on peut se reposer la question que pourquoi ce grand continent de 105 millions d'habitants, qui une population est plus grande qu'aux États-Unis, pourquoi devrait-on, avec des ressources à correspondre, bien sûr, les industries ont été démilitarisées après la Deuxième Guerre mondiale, après la fin de la guerre froide aussi, bien sûr. Donc, il y avait voilà, cette approche que tu as appelée angélique, pacifiste en quelque sorte. Mais il nous arrive parfois d'entendre des discours, notamment tout récemment, il y avait ce festival de cité philo à Lille, et nous avons entendu Étienne Balibar, ce philosophe très connu français, qui a dit une chose qui nous a surpris, parce qu'il a dit que une démocratie armée, c'est une contradiction dans les termes. Et donc, c'est une thèse qu'on n'accepte pas du tout. Et donc, je pense que c'est le moment aussi historique de comprendre que, même pas uniquement l'Ukraine, mais toute l'Europe doit comprendre que, oui, on n'est pas seul au monde. Donc, les démocraties ne sont pas seul au monde. Et pour survivre, il faudrait être armé, il faut être fort. Et donc, comment relier voilà, cette force, y compris force armée, avec voilà, les valeurs que tu avais évoquées, liberté, liberté de la parole, absence de la censure, droit de la femme, droit de l'homme, etc. Tout ça, c'est très important, mais voilà, on rentre dans un moment historique où on doit comprendre que la démocratie doit être forte pour survivre, parce qu'en face d'elle, nous avons des ennemis très forts, des ennemis très puissants, des ennemis qu'on, tu as absolument raison de dire que l'OTAN, dans les régimes totalitaires, autoritaires, ils jouent pour le temps très long, donc ils disposent de ce temps dont les démocraties ne disposent plus.
Oui, absolument, et je crois que ce qui a été dit au festival que tu mentionnais, c'est très grave, parce que pour moi, c'est du défaitisme. Si un Français avait dit ça en 1940, alors que Pétain prenait le pouvoir, pour moi, je l'aurais accusé de collaborationnisme. Tu sais, je reviens, là, j'étais encore avant-hier matin, de Vichy, parce que nous avons remis le prix Albert Londres. Et d'ailleurs, le livre que tu mentionnais, mon premier voyage au pays de la Russie, c'est une somme de reportages que j'ai réécrit, que j'ai complété. Je suis retourné en Russie pour ce livre. Au départ, c'était des reportages qui m'ont valu, quand j'étais très jeune, donc il y a 30 ans, effectivement, le prix Albert Londres. Et là, on a eu à Vichy le discours du maire de Vichy, qui était donc la capitale, on va dire, de la France collaborationniste, c'est-à-dire qui collaborait avec les nazis allemands et qui avait déménagé depuis Paris à Vichy. Et le maire a fait un très beau discours en disant, ben voilà, il faut, contre cette mentalité de Vichy, mettre en avant une autre philosophie politique qui est l'esprit de résistance. Pour moi, je l'appelle ainsi, l'esprit de résistance, cette combativité. On peut être philosophe, on peut être écrivain, on peut être poète et prendre les armes. Je parlais de Paul Éluard tout à l'heure, qui a écrit des poèmes pour la résistance. On peut parler de René Char aussi en France, qui était un résistant qui a pris les armes pour combattre. On peut parler de Jankélévitch, qui était un écrivain philosophe juif qui a été résistant pendant la guerre. Et ça, c'est la démonstration de quoi ? C'est la démonstration de la morale, c'est la démonstration de l'éthique, et ça veut dire aussi la démonstration du courage. Pour moi, le courage est une des plus belles valeurs. Je ne veux pas parler spécifiquement de sacrifice, d'aller jusqu'à la mort, mais le courage, oser prendre les armes, oser prendre sa plume aussi, écrire, ça peut être aussi un acte de courage, dire en revanche qu'il ne faut pas s'armer, parce que c'est contraire à la démocratie. Pour moi, c'est un esprit collaborationniste, un esprit défaitiste. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'en face, vous avez la victoire de la non-éthique, de la non-morale, c'est-à-dire de la dictature. Il y en a eu trois. Il y en a trois maintenant. Il y en a eu deux principalement au XXe siècle. Je rappelle que le XXe siècle, c'était le siècle des quatre génocides. Ça démarre en 1915 avec le génocide par les Arméniens d'un empire en décomposition qui était l'Empire ottoman, en Turquie d'aujourd'hui, donc, avec le mouvement des jeunes turcs. Et ça finit avec le génocide rwandais entre Hutu et Tutsi. Il y a eu trois dictatures. Le communisme version stalinienne, donc on va appeler cela le stalinisme. Il y a eu le fascisme également, de type fascisme et nazisme, hein, du type mussolinien et hitlérien. Et puis après, vous avez une troisième dictature qui est en train de monter, que je connais bien pour avoir passé des années à vivre avec ses militants ou les opposants à ce fascisme, c'est le fondamentalisme islamique. Pour moi, on ne peut lutter contre ces barbaries, contre ces dictatures, qu'avec deux moyens. D'une part, la culture, la parole, l'esprit de résistance, donc ça peut être aussi les mots, et puis deuxièmement, bien sûr, les armes. À un moment, il faut prendre les armes. Et je crois que c'est important, évidemment, de continuer à aider l'Ukraine. Alors, pour répondre aussi à ce que tu disais par rapport aux États-Unis, qui est quand même la première puissance au monde, avec ce pays de 300 ou plus de 300 millions d'habitants, eh bien, il y a aussi ce danger de la campagne électorale qui va commencer. Pour moi, c'est demain, c'est-à-dire dans un mois et demi, en janvier 2024, les États-Unis vont rentrer en campagne électorale. Je pense, pour avoir étudié en Californie et connaître un petit peu les États-Unis, je pense qu'il y aura une sorte d'alignement, ou un début d'alignement, de nivellement entre la position des démocrates et la position des républicains, avec le spectre d'un retour tout à fait possible. Au niveau de la probabilité statistique, c'est tout à fait envisageable que Trump revienne au pouvoir, et on peut penser que le gouvernement Biden pourrait éventuellement réduire le niveau d'armement à l'Ukraine. Et c'est là maintenant, il faut dire non, au contraire, il faut continuer à aider l'Ukraine par tous les moyens, au niveau logistique, au niveau financier. Ce plan Marshall avant l'heure, c'est quand même incroyable aussi, il faut le saluer, que les pays occidentaux aient pu aider l'Ukraine avant même la fin de la guerre dans sa tentative de reconstruction ou de réparation des dommages de guerre en cours. Et puis deuxièmement, bien sûr, aider militairement l'Ukraine, sachant que là, et on l'a vu aussi, toi et moi, je l'ai vu à Odessa, la Russie s'apprête à continuer ou à accroître, on va dire, ses visées sur tout ce qui est structure énergétique, centrale électrique, centrale de chauffage, pour essayer de démoraliser, de briser ce lien très original, très singulier, que j'ai rarement vu dans le monde, entre les lignes de front, donc l'appareil militaire ukrainien, on va l'appeler comme ça, et deuxièmement l'arrière. Donc il ne faut pas baisser la garde, au contraire, plus que jamais, il faut aider l'Ukraine.
Oui. Oui, je suis absolument d'accord avec cela, puisqu'il faut aussi comprendre que cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, ce n'est pas du tout une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre l'Europe, puisque tout se passe dans le continent européen, tout se passe contre le système de valeurs, le système, le mode de vie européen, et donc si on n'arrête pas la Russie ici en Ukraine, donc il n'y aura aucun doute qu'il y aura d'autres victimes, d'autres objectifs de cette attaque russe, donc ce qui est d'ailleurs ouvertement déclaré par la Russie même avant l'agression, n'est-ce pas? Même en décembre 2021, il disait que voilà, que l'OTAN devrait revenir dans les zones d'influence qui datent des années 97, alors que voilà, donc il y a un partage du monde, etc. Donc c'est un ultimatum que les pays de l'OTAN n'ont pas accepté. Donc voilà, une démocratie peut et doit être forte, et donc ça n'entre pas dans la contradiction comme ça, avec le fait qu'on défend l'espace de la non-violence, du respect des droits de l'homme. Mais voilà, donc à l'extérieur, il y a un peu de tout. Donc il faudrait savoir défendre ce à quoi on croit et ce de quoi on bénéficie. Hein. Donc, parce que voilà, on bénéficie en Europe pendant des décennies déjà de ce mode de vie plus ou moins confortable, on va dire, dans le respect des citoyens. Donc, il faut savoir que c'est un acquis, hein, donc, mais il faut savoir combattre pour que cet acquis ne soit pas éternel. Donc, nous avons vu que, voilà, que la Russie arrive, un agresseur arrive, il détruit très vite ce qu'on appelle la civilisation, donc la vie disparaît. Toi, tu es écrivain, et donc tu es écrivain voyageur, tu as vu énormément de pays, j'ai l'impression que tu as vu tous les coins de la planète, en tout cas, tu es vraiment toujours en mouvement. Et dans cette sympathie que tu as pour l'Ukraine, on le lit dans ton livre, qui a cette sympathie-là, dans son soutien, dans cette solidarité, quel écrivain ukrainien ou quel phénomène culturel ukrainien t'interpelle plus que les autres? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la culture ukrainienne?
Alors, ce qui m'interpelle d'une part, c'est cette vivacité, même en temps de guerre, et surtout en temps de guerre, de la culture ukrainienne, et de la littérature surtout. Après, deuxièmement, pour avoir débattu plusieurs fois avec lui dans des festivals, c'est aussi, je parle d'Andriy Kourkov, c'est comment on peut porter une parole, par une métaphore, par un roman, par des personnages plus ou moins imaginés, mais évidemment, un bon romancier s'inspire toujours du réel, et comme disait Carlos Fuentes, le grand écrivain mexicain, après, un romancier peut tout se permettre, donc il faut inventer, réenchanter le réel. C'est d'ailleurs le titre d'un de mes livres, l'enchantement du monde. Et ce qui me frappe également aussi, c'est cette aspiration à affirmer l'histoire. On parlait de l'Holodomor, ça se sent dans la poésie, dans la musique, ça se sent dans le roman également, et je crois que c'est très important. Et après, pour moi, il y a aussi, troisièmement, ce que je ressens dans la culture ukrainienne, dans la littérature, mais pas que, c'est cette aspiration à la liberté. Tu disais que, oui, j'avais beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de peuples en conflit, mais pas que aussi, simplement aussi, de par le monde, pour mes romans, j'ai voyagé pour des festivals, et il y a quelque chose qui est très cher. On s'en rend plus compte dans les pays occidentaux, parce que pour nous, c'est presque un bien fondamental, comme l'air qu'on respire et dont on ne se rend plus compte, c'est la liberté. Et tu ne peux pas t'imaginer quand je suis en Afrique, quand je suis dans des pays totalitaires et même semi-totalitaires, si tant est que le vocable est une réelle, comment dirais-je, adéquation réelle à la réalité politique, comment les pays démocratiques sont enviés. Ah bon, vous pouvez critiquer votre président. Ah bon, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans les livres. Ah bon, vous pouvez dire ce que vous pensez dans la rue ou dans les journaux. Et voilà. Et ça, cette aspiration à la liberté, elle existe dans la culture ukrainienne. Elle est très, très forte. Pour moi, elle est imprimée depuis plus d'une génération. Et peut-être qu'avant, elle était aussi dans l'inconscient, dans le désir inconscient des Ukrainiens, depuis l'Holodomor et peut-être même avant, depuis la Première République indépendante. Et je crois que c'est important de soutenir aussi cette culture ukrainienne. Et ce que toi, tu as fait, ce que Volodymyr Yarmolenko a fait avec toute l'équipe de Pen Ukraine, que de nous avoir invités, nous, auteurs français et européens, en Ukraine, c'est bien parce que ça tisse des liens. Nous, on va vous inviter, on va essayer de porter cette parole. C'est peut-être à un petit niveau, mais c'est très important. C'est une flamme qu'il ne faut pas éteindre. Il y a un écrivain, alors je ne sais pas s'il faut le qualifier de soviétique ou de russe. Il était communiste au départ, il était soviétique, il faisait partie de l'Union des écrivains soviétiques. Et après, il a commencé à lutter contre les deux fascismes qui étaient le nazisme et le communisme, c'est Vassili Grossman. Vassili Grossman, il est né dans l'actuelle Ukraine, donc en Berdichev, ce qui n'était pas encore tout à fait l'Ukraine, c'était encore l'URSS. Il disait quelque chose comme ça à peu près dans Vie et Destin. Il disait à peu près, hein, en français, l'aspiration à la nature humaine vers la liberté est invincible. On ne peut pas la vaincre. Elle peut être écrasée, mais elle ne peut jamais être totalement anéantie. Et donc, ce qu'il voulait dire, c'est que même sur les champs de bataille, même quand on est en prison, même quand il y a un peuple qui est empêché de parler, c'est-à-dire bâillonner, il y a toujours ce désir, cette aspiration de liberté qui revient un jour ou l'autre. Et ça, je l'ai senti. Alors évidemment, on n'en est pas là. L'Ukraine est libre, mais je rappelle quand même qu'une partie de ces territoires sont encore sous occupation. C'est évidemment très dur pour la partie de la population ukrainienne qui vit dans le Donbass ou en Crimée ou ailleurs. Et j'ai, grâce à ton invitation d'ailleurs, j'ai pu rencontrer des Tatars de Crimée lorsque j'étais, ou revoir plutôt des Tatars de Crimée quand j'étais à Kiev. Voilà, il y a toujours cette aspiration à revenir au pays. Et voilà, donc pour répondre à ta question, cette culture ukrainienne est très vivace, elle est très libre, elle est très aussi inscrite dans la résistance civile et militaire même quelque part, parce que la parole ou l'écrit, ce sont aussi des armes. Et puis troisièmement, voilà, je le redis aujourd'hui, je veux absolument qu'on continue à créer des liens entre vous les Ukrainiens et les Ukrainiennes et nous les Européens, et vous continuerez à nous apporter ces valeurs très haut de la démocratie et des libertés.
Merci beaucoup, Olivier, pour cet entretien très enrichissant. Ma toute dernière question, toute courte. Je sais que tu aimes des villes, certaines villes dans le monde, comme tu voyages beaucoup. Quelle serait ta ville préférée ici en Ukraine? Serait-ce Kiev, Odessa, ou Lviv, ou Kharkiv peut-être?
Oh, c'est une question difficile, parce que je ne veux vexer personne, mais je dirais Odessa, parce que c'est une ville monde. C'est une ville qui est ouverte sur la mer, même si cette mer est minée. Et ça sera d'ailleurs la fin d'un de mes reportages dans l'Express sur Odessa. Je vois sur une plage, en sortant du port la nuit, alors que le port venait d'être bombardé par des missiles. Moi-même, j'ai pris des missiles pas très loin de l'endroit où je me trouvais. Enfin, je ne les ai pas pris sur moi, mais c'était à quelques rues. J'étais fasciné aussi par le calme de beaucoup de jeunes Ukrainiens, Ukrainiennes. Et donc là, sur la plage, il y avait un jeune pianiste qui jouait. Il dit « Je joue tous les soirs, au coucher de soleil, face à la mer. Mon piano est droit là, devant la mer, sur le sable. il y a plein de monde autour de moi. Je joue pour dire non à la guerre, pour résister, pour dire non à l'invasion de la Russie. Donc c'est très beau. Odessa, pour moi, voilà, c'est une ville monde, c'est une ville ukrainienne, en même temps une ville qui est ouverte sur les autres cultures. Et on me l'a dit là-bas, on me l'a dit plusieurs fois, on me l'a dit, mais on veut rester une ville composite, cosmopolite, on ne veut pas oublier nos racines de toutes origines, on veut garder cette ouverture sur le monde. Et puis quand même, voilà, donc ça c'est ma première ville, et je pense que c'est important aussi de mieux la faire connaître à l'étranger. Et puis deuxièmement, quand même, je suis toujours étonné par Kharkiv aussi, peut-être moins par la beauté de la ville, qui est aussi une ville qui a été très bétonnée, parce qu'elle a grandi très vite, et c'est normal, mais par son âme, par son esprit, par sa résistance, par sa culture.
Merci beaucoup pour cet échange, cette conversation absolument passionnante. Je tiens à rappeler à nos auditeurs qu'à partir du mois de février, vous pouvez chercher dans les librairies le nouveau livre d'Olivier Weber qui s'intitule « De l'esprit de la résistance ». Il y aura des illustres écrivains et philosophes dedans, avec Camus, Sartre, Grossman, Montaigne, mais il y aura aussi, si je ne me trompe pas, un chapitre sur les Ukrainiens.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci à toi.
C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Olivier Weber. Écrivain, grand reporter et voyageur, auteur de plusieurs livres dont un ouvrage sur l'Ukraine, Naissance d'une nation européenne.